Audiolib présente Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance de Mathieu Ricard, lu par Michel Rimbaud. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Victor Hugo. Introduction. J'ai peu d'inclination à parler de moi et préfère donner la parole aux grands penseurs qui ont inspiré mon existence. Pourtant, vous raconter quelques étapes de mon cheminement personnel vous aidera à comprendre comment j'en suis venu à rédiger ce livre et à défendre les idées que j'y présente. Après avoir grandi en Occident, je me suis rendu en Inde pour la première fois en 1967, afin d'y rencontrer des grands maîtres du bouddhisme tibétain, dont Kangyo Rinpoche, qui allait devenir mon principal guide spirituel. La même année, j'ai commencé une thèse en génétique cellulaire sous la direction de François Jacob à l'Institut Pasteur. Je dois à ces années de formation scientifique d'avoir appris à apprécier l'importance de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle. En 1972, ma thèse terminée, j'ai décidé de m'établir à Darjeeling, auprès de mon maître. Pendant les nombreuses années qui ont suivi cette rencontre, j'ai mené une vie simple. Grâce aux enseignements que j'ai reçus de ces maîtres, j'ai pris conscience des bienfaits inestimables de l'altruisme. En 1997, j'ai reçu un message de France me proposant d'engager un dialogue avec mon père, le philosophe Jean-François Revel. La publication du livre « Le moine et le philosophe » a marqué la fin d'une vie tranquille et anonyme. Au terme d'un quart de siècle d'immersion dans l'étude et la pratique du bouddhisme, loin de la scène occidentale, je me suis retrouvé de nouveau confronté aux idées contemporaines. J'ai renoué avec le monde scientifique en dialoguant avec l'astrophysicien Trinh Xuang Thuan. Mon expérience s'est constituée au confluent de deux grandes influences, celle de la sagesse bouddhiste de l'Orient et celle des sciences occidentales. À mon retour d'Orient, mon regard avait changé, et le monde aussi. J'étais maintenant habitué à vivre au sein d'une culture et parmi des personnes dont la priorité était de devenir de meilleurs êtres humains en transformant leur manière d'être et de penser. Par-dessus tout, l'amour altruiste et la compassion constituaient les vertus cardinales de toute vie humaine. J'ai été, et je suis toujours, particulièrement inspiré par la vision bouddhiste selon laquelle chaque être humain possède en lui un potentiel inaltérable de bonté et d'épanouissement. Le monde occidental que je retrouvais, un monde où l'individualisme est apprécié comme une force et comme une vertu au point de souvent virer à l'égoïsme et au narcissisme, était d'autant plus déconcertant. En m'interrogeant sur les sources culturelles et philosophiques de cette différence, je me suis souvenu de Plaute, pour lequel « l'homme est un loup pour l'homme », affirmation reprise et amplifiée par Thomas Hobbes qui parle de la guerre de tout homme contre tout homme, de Nietzsche qui affirme que l'altruisme est la marque des faibles, et enfin de Freud qui assure n'avoir découvert que fort peu de bien chez les hommes. Soucieux de mieux comprendre ce phénomène, je constatais à quel point supposer que tous nos actes, nos paroles et nos pensées sont motivés par l'égoïsme a longtemps influencé la psychologie occidentale, les théories de l'évolution et de l'économie, jusqu'à acquérir la force d'un dogme dont la validité n'a guère été contestée que récemment. En observant la société occidentale, force m'était de convenir que les sages n'étaient plus des modèles, mais qu'on leur avait substitué les gens célèbres, riches ou puissants. L'importance démesurée accordée à la consommation et au goût du superflu, ainsi que le règne de l'argent, me faisait penser que beaucoup de nos contemporains avaient oublié le but de l'existence,